Vous êtes sur RTL.
Ce qui est vertigineux dans cette affaire de la mort horrible de Patrick Izoard, c'est qu'on réalise en 2014, au moment où on découvre son corps au fond de cette caverne, de cette grotte, on découvre qu'en fait le mobile de ce meurtre, de cet assassinat, est certainement beaucoup plus ancien.
Bonsoir, 30 ans de prison pour le coiffeur, 12 ans pour sa complice. Verdict rendu vendredi 29 janvier 2021 par la cour d'assises de l'Hérault à Montpellier. L'épilogue de l'affaire de la grotte sanglante à 7, 6 ans d'investigation et de questions pour éclairer l'exécution au mois de juin 2014 de Patrick Izoard, 49 ans dans cette caverne de pierre qui allait devenir son tombeau, la mise à mort d'un homme qui n'avait pas d'ennemis. Du moins, le croyait-on, car pour les jurés, il a été attiré dans un traquenard, tué de sang-froid sur fond de rancœur sentimentale recuite d'une vieille histoire de tromperie. Ainsi s'achève une enquête où les interrogations n'ont pas manqué, où les rebondissements se sont succédés pour aboutir à ce scénario criminel, scénario que nie résolument. Depuis le début, le principal accusé, le coiffeur à domicile Rémy Chaîne, ses avocats n'ont cessé de dénoncer une construction bancale, un dossier qui contient des témoignages à charge, mais pas de preuves. Avec nos invités, nous allons voir si la grotte sanglante de Sète a livré tous ses mystères ou si des doutes persistent sur les circonstances de la mort de Patrick Izoard, sur le mobile qui aurait conduit à cette glaciale exécution. L'affaire de la grotte sanglante, la haine pour expliquer la mort d'un tranquille employé d'hôpital, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire de la grotte sanglante à 7, un endroit qui va bientôt servir de décor à une enquête qui démarre à l'été 2014 par une soudaine disparition. Ce lundi 23 juin 2014, peu après 16h30, Patrick Izoard termine son service à l'hôpital de Sète. Il est salarié ici en qualité de chauffeur, principalement chargé de transporter les repas de l'établissement. Avant d'enfourcher son scooter, l'employé discute avec un de ses collègues. Il est d'humeur curieuse et guillerette. Il confie qu'il a rendez-vous avec une ancienne copine qui a renoué le contact avec lui et a insisté pour le revoir. Elle se prénomme Audrey. Ils ont rendez-vous à un arrêt de bus en face de l'entrée du cimetière Le Py, le fameux cimetière marin connu des touristes de passage à Sète. C'est là où est enterré le chanteur Georges Brassens. Patrick Izoard a 49 ans et il vit chez sa mère depuis qu'il a divorcé il y a quelques années de son épouse Claude. Il a une fille de 13 ans prénommée Alabama qui donne ce soir-là un gala de danse avec son école, représentation qu'il ne raterait pour rien au monde. Dans les heures qui suivent son rendez-vous au cimetière, Patrick Izoard ne donne plus aucune nouvelle. Son portable sonne dans le vide. Il n'est pas apparu au gala de danse de sa fille. Il n'a pas non plus averti sa mère qu'il rentrerait plus tard que prévu ou qu'il passerait exceptionnellement la nuit dehors. Le lendemain, le mardi, il est absent à son travail à l'hôpital. Étonnant pour cet employé qui est sérieux et ponctuel. Son frère Marc et des amis, il en compte beaucoup, font le tour de la ville, visitent les endroits qu'il fréquente, l'attendent à un café où il a ses habitudes. Personne ne l'a vu. Patrick a peut-être été victime d'un accident. On finit par retrouver son scooter devant l'entrée principale du cimetière. Le deux-roues est attaché, intact. Le blouson et le téléphone portable de Patrick sont sous la selle. La police est prévenue. 4 jours après la disparition, un avis de recherche est publié. Le compte bancaire de l'employé hospitalier n'a connu aucun mouvement. Patrick Izoard reste introuvable. Le 30 juin, une semaine après la disparition, une patrouille de police vient vérifier la grotte du Mont Saint-Clair. Une cavité qui s'avance dans la roche, sans éclairage, dans laquelle il est facile de s'égarer. Un lieu fréquenté par des marginaux, des toxicomanes et quelques couples qui se retrouvent à l'abri des curieux. Les policiers constatent que la porte interdisant l'accès à la grotte, facile à déverrouiller, est ce jour-là fermée. Ils passent donc leur chemin. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, une bande de jeunes aventuriers explore clandestinement la grotte. Ils aperçoivent une silhouette dans l'obscurité. Aucune odeur, des pieds dénudés blancs comme du plastique. Sur le coup, à la lumière des lampes torches, ils croient un mannequin et quittent le lieu. Ils ne vont signaler leur découverte que quelques jours plus tard. Le 17 juillet, un corps est ainsi mis au jour dans la grotte du Mont-Saint-Clair. Un homme tatoué, ligoté et en partie carbonisé. Le cadavre porte deux orifices, deux tirs de fusil de chasse, l'un sous l'omoplate, l'autre dans un œil. Il s'agit bien de Patrick Isoard. Sa mère a tout de suite identifié le couteau qu'il portait en permanence sur lui. Bonsoir Marc Isoard.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes le frère de Patrick Isoard et vous avez évidemment suivi, hélas, si je puis dire, toute cette affaire depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Marc Isoard, je l'ai dépeint très rapidement, mais qui était votre frère, la victime, Patrick Isoard ?
C'était quelqu'un un peu comme tout le monde. Hein. Il avait sa petite vie tranquille. C'était quelqu'un de serviable, gentil. Voilà, quoi. Il avait sa fille, hein, il avait sa petite, la famille, hein, ses amis. Mmh. Le jeudi, il allait jouer aux cartes avec ses collègues au bar, ils mangeaient ensemble, puis voilà, qu'elle avait une vie tranquille. Quoi. Il n'avait pas d'ennemis. Enfin, voilà,
c'est
quoi.
Ça, vous confirmez, Marc Isoard, c'est pas quelqu'un qui se bagarrait, qui avait des ennemis, qui cherchait l'embrouille, oui. Comme on dit.
Non. Moi, je ne l'ai jamais vu se battre. Hein. Je l'ai jamais vu se fâcher avec quelqu'un. Voilà, quoi. C'était pour se disputer avec mon frère ou se fâcher avec mon frère, il fallait le faire exprès, quoi.
Il fallait le pousser.
Oui, oui, voilà.
Il fallait le pousser. Marc Isoard, c'était pas dans ses habitudes de disparaître comme ça à votre frère.
Non, jamais. Jamais. D'ailleurs, moi, j'ai compris de suite que quand ma mère m'a appelé le mardi pour me dire qu'il n'avait pas été au gala de la petite, qu'il n'était pas rentré dormir sans l'avertir en plus, et puis qu'il n'avait pas été travailler, j'ai compris qu'il lui était arrivé quelque chose.
Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là, Marc Isoard ?
Je pense à tout sauf à ce qui lui est arrivé. Un accident, je sais pas, on ne pense pas à tout là, mais jamais ce qui lui est arrivé. J'aurais jamais cru qu'il finisse comme ça.
Et c'est vous, je crois, avec des amis qui allez retrouver ce scooter, c'est ça ?
Oui, c'est ses collègues de l'hôpital, en passant, ils ont vu le scooter devant le cimetière, que l'hôpital n'est pas loin, et ils m'ont appelé, et puis voilà, quoi. On est allé voir le scooter, et c'était bien le sien, quoi.
Et là, vous avez effectivement trouvé les affaires hein, de votre frère qui était là.
Voilà.
Rien n'avait été touché, hein.
Non. Il était anti-volé, le scooter, on l'a mené à l'hôpital avec le camion. Et de là, on a ouvert la selle, il y avait son paquet de cigarettes, son bouson, le casque, son téléphone, enfin voilà.
Pas vraiment le signe que quelqu'un soit disparu volontairement, en tout cas.
Hein. Oui, non.
C'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir Yannick Filippona.
Bonsoir.
Merci beaucoup, vous également, d'avoir accepté notre invitation à l'heure du crime ce soir. Je précise que vous êtes journaliste au Midi Libre et vous connaissez parfaitement cette histoire que vous avez couvert. Vous êtes reporter à ce journal, le Midi Libre. Yannick, en quelques mots, comment se présente cette scène de crime ? Quelle est cette étrange caverne, si je puis dire ?
Bah écoutez, si pour les auditeurs qui ne connaissent pas Sète, il y a ce qu'on appelle le Mont Saint-Clair, qui est une espèce de montagne qui surplombe un peu la ville. Et au pied, dans un rond-point, il y a une espèce de cavité souterraine, une espèce de champignonnière où on peut s'aventurer, comme vous l'avez décrit. Et ça fait des espèces de galeries avec des cavités. Bon, c'est assez impressionnant.
Et c'est pas forcément un lieu bien fréquenté, Yannick Filippona.
C'est pas lieu fréquenté, alors il se dit qu'il y a quelques jeunes qui vont pouvoir faire un peu la fête à l'intérieur, ou des couples qui s'y aventurent, comme vous le faisiez remarquer, ou encore des gens qui s'amusent à se faire un peu peur, un peu comme dans les catacombes.
À l'époque, la victime a disparu depuis un petit moment déjà, on a vite la certitude que c'est lui qui est mort dans cette grotte.
Oui, la victime a rapidement disparu, mais il y a ce temps entre le 23 juin, date de sa disparition, et le 17 juillet, il se passe quasiment un mois où il n'est pas retrouvé. Et les débats à la cour d'assises ont montré qu'il y avait eu parfois des incompréhensions, notamment quand les services de police ont vu que la porte était fermée, ils n'ont pas été, parce qu'il y a une porte hein, qui est à l'entrée de cette grotte, ils n'ont pas été forcément aller voir là où ils auraient pu, et ça, oui. Et finalement le corps a été retrouvé très tardivement.
C'est ça, ils ont rebroussé chemin, cette fameuse patrouille. Yannick Filippona, encore quelques mots, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette grotte ? Alors évidemment, il y a le cadavre de Patrick Isoard. Qu'est-ce qu'on prélève ? Est-ce qu'on prélève de l'ADN ? Est-ce qu'il y a des empreintes ? Est-ce qu'il y a des traces qui ont été laissées ?
Alors il y a quelques traces surtout d'hydrocarbures, hein, puisque le corps a été calciné et le médecin légiste est venu faire une description terrible la semaine dernière à l'audience en expliquant que le corps avait dû brûler des heures et des heures puisqu'il était toute la partie, tout l'abdomen avait disparu. Donc il y a eu quelques saisies, des traces d'hydrocarbures, de planches qui ont peut-être pu alimenter le feu et voilà, c'est à peu près tout. Hein.
D'accord, donc il y a pas grand chose. Encore un petit mot, Marc Izoard, frère de Patrick Izoard, vous disiez tout à l'heure, je m'attendais à tout sauf ça. Quand vous découvrez l'ampleur de ce crime, vous êtes vraiment choqué, je suppose.
Oui, parce que quand moi je l'apprends, j'y vais à la grotte, et puis bon, quand tu apprends qu'il a été tué, brûlé et tout, je me demandais ce qui lui est arrivé, quoi. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est... Je sais pas. Mm. J'ai dit, il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment, enfin voilà, je voyais vraiment pas ce qui pouvait être arrivé, quoi, parce que c'était vraiment... vraiment étonné, quoi. Même ses collègues, je disais, mais c'est pas possible, c'est... Enfin voilà, c'est... Et après, on a su pour la suite qui c'était.
Nous sommes face à une affaire criminelle peu courante. Tout acte suicidaire est à écarter, affirme Christophe Barré, le procureur de la République de Montpellier. Le 3 juillet, une enquête pour séquestration suivie de mort et assassinat est ouverte. L'affaire de la grotte sanglante, qui en voulait à Patrick Izoard, un homme à qui on ne connaissait aucun ennemi? C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire de la grotte sanglante à l'été 2014 à 7. Un homme, Patrick Izoard, retrouvé exécuté. Le SRPJ de Montpellier s'intéresse en priorité aux toutes dernières heures de la victime. Avant même la découverte du corps, les policiers n'ont pas eu de mal à établir que le 23 juin, Patrick Izoard avait rendez-vous au cimetière avec une femme. Il retrouve alors rapidement Audrey Louvet, alors âgée de 33 ans, sans emploi et qui habite Lunel. Elle confie sans rechigner qu'elle avait rendez-vous ce jour-là avec la victime. À une époque, ils étaient sortis ensemble, elle était heureuse de le revoir. Leur tête-à-tête n'a pas duré très longtemps. Après avoir discuté sur place, ils se sont séparés. Elle est alors retournée prendre le bus et lui se serait dirigé vers son scooter. Elle ignore tout de ce qui a pu se passer par la suite. Audrey Louvet précise que c'est un ami à elle, un certain Rémi, un homme qui travaille comme coiffeur à domicile à Sète et aux alentours, qui l'a déposé en voiture au cimetière. Rémi est ensuite reparti. Deux personnes qui se connaissent sont en relation régulière et sont les dernières à avoir vu en vie Patrick Izoard. Le 7 juillet, alors que le corps n'a pas encore été découvert, la juge d'instruction décide de placer en garde à vue Audrey Louvet et le coiffeur Rémi Chêne. Mais les auditions ne donnent rien, pas plus que les perquisitions effectuées au domicile des deux intéressés. Ils sont relâchés. La découverte du corps de Patrick Izoard ne révèle aucun élément susceptible d'impliquer les deux dernières personnes récemment entendues dans l'assassinat. Du coup, les hypothèses et les rumeurs fusent pour expliquer ce crime. Il est avancé un règlement de compte dans une affaire de prostitution, des dettes de jeu ou encore une histoire de fausse monnaie au Maroc. La famille de la victime s'insurge contre ces contre-vérités. Patrick Izoard était, dit-elle, à 1000 lieues de tremper dans des trafics. Les mois vont ainsi se dérouler sans que l'enquête ne progresse. La famille dénonce alors la lenteur de l'instruction, s'interroge sur cette femme qui a parlé pour la dernière fois à Patrick. C'est elle qui avait insisté pour le revoir. Elle avait téléphoné chez la mère de Patrick pour obtenir son numéro de portable. Elle lui avait laissé des messages insistants que l'agent hospitalier faisait écouter à ses collègues. « Elle me fait du rentre-dedans », indique alors Patrick. Quand son frère a contacté la jeune femme, elle lui a simplement confirmé « On a marché devant le cimetière et il m'a laissé en plan ». La famille de la victime écrit à la juge pour se porter partie civile, mais elle n'obtient pas de réponse. L'enquête semble s'immobiliser. Le frère de Patrick Izoard s'insurge dans le journal Midi Libre. « Je suis plus qu'en colère face à ces juges qui n'ont pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe », dit-il le 8 février 2016 à la télévision en direct. Ce même frère lance un appel à témoins. « Si j'ai accepté de participer à cette émission, c'est aussi pour qu'on n'oublie pas Patrick. » Yannick Philipponat, journaliste au Midi Libre. La piste de ces gardes à vue, elle est finalement assez rapide, presque, j'allais dire, presque précipitée, parce qu'on n'a toujours pas retrouvé le corps à ce moment-là de la victime. Y a bon espoir, c'est une bonne piste à l'époque ?
C'est une bonne piste, parce qu'effectivement, c'était en tout cas, Audrey Louvet était la dernière personne à avoir vu Patrick Izouard vivant. Donc, elle était l'objectif prioritaire des policiers du SRPJ, qui sont aussi très vite remontés sur Rémi Chêne. Ils l'apprennent avant que le corps soit retrouvé, ce mobile possible, vengeance. Qui aurait pu avoir lieu.
On va beaucoup en parler, donc on va garder ça pour un chapitre suivant, le fameux mobile de la vengeance. Mais ce que je veux dire.
En tout cas, ils ont ces billes-là, et puis effectivement, la question se pose, est-ce qu'ils les placent en garde à vue ou est-ce qu'ils attendent encore d'avoir un peu plus d'éléments? La décision a été prise de les placer en garde à vue avec cet espoir de se dire que peut-être que Patrick Izouard était encore vivant. Il y avait donc urgence à les questionner et à les interroger.
Oui, ça c'est exact et c'est important puisque effectivement la garde à vue elle est faite aussi pour voir, pour peut-être sauver la personne qui aurait été enlevée. Marc Izouard, je disais que vous avez eu, je crois, assez rapidement au téléphone la fameuse Audrey Louvet. Vous l'avez appelée parce que vous avez trouvé son numéro sur le portable de votre frère, c'est ça ?
Voilà, le mardi, le lendemain.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit, Audrey Louvet, alors, à ce moment-là ?
Ben, moi, je lui dis, c'est toi qui as eu rendez-vous avec mon frère. Elle me dit oui. Elle me dit, on est resté devant le cimetière, là. Il m'a laissé en plein, et chacun est parti d'un côté, et voilà. À aucun moment, elle me dit, on est descendu, on a marché, on est descendu vers la grotte, parce que, elle le dit qu'elle est restée devant le cimetière. Mais bon, après, à la caméra de la station d'essence, on les voit descendre.
Effectivement, les dernières images, il faut le préciser, je ne l'ai pas dit dans le récit, mais il y a ces images de vidéosurveillance, et on voit, effectivement, Audrey Louvet avec votre frère, ils allument une cigarette, je crois, et puis, ils disparaissent, hein. Est-ce que vous étiez au courant, est-ce que vous connaissiez déjà Audrey Louvet?
Non.
Vous l'aviez rencontré, pas du tout ?
Non, je ne l'ai jamais vu. Il a vu l'aventure, ça faisait 5 ou 6 ans avant, mais moi, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue.
Mais vous étiez au courant de cette aventure avec elle ou pas du tout ?
Oui, je sais qu'il a vu une aventure avec une fille qui habite à côté du terminus, là, le bar où il allait, mais après, je ne savais pas qui c'était, quoi, je ne la connaissais pas.
Oui, c'est ça, vous ne l'identifiez pas à ce moment-là.
Oui, d'accord.
Maître Eva Fournier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous allez nous éclairer ce soir parce que vous êtes tout simplement l'avocate d'Audrey Louvet dans ce dossier. Vous étiez aux assises très récemment. Vous avez suivi toute son affaire depuis le début. En quelques mots, Maître Fournier, qui est Audrey Louvet ?
Audrey Louvet, c'est une jeune femme de 33 ans, hein, vous l'avez dit, qui élève seule ses deux enfants, qui n'a jamais vraiment travaillé. Elle a essayé de faire des petits boulots, mais elle n'a jamais vraiment réussi à les maintenir dans la mesure où elle n'a aucun diplôme. Elle a arrêté l'école très très tôt. Elle est issue d'une famille où véritablement elle n'a jamais ressenti aucun amour, avec une maman qui lui a dit... qu'elle aurait préféré avorter le jour où elle a su qu'elle avait une fille, puisqu'elle avait par ailleurs 6 autres garçons. Et donc, c'est une jeune femme qui s'est construite un petit peu comme elle a pu, et qui n'avait pas d'histoire, elle n'avait pas de casier à ce moment-là. Et puis, voilà, elle était un peu dans la débrouille, elle utilisait des minima sociaux.
Oui, elle vit du RSA. L'histoire dira qu'effectivement, elle a des aventures avec plusieurs hommes, parce qu'on dira qu'elle est naïve. C'est vrai, elle est naïve, Audrey Louvet, Maître Fournier ?
Ah oui, je crois que naïve est un faible mot pour Madame Louvet. Alors en fait, c'est pas tant qu'elle est naïve, c'est surtout que dès lors qu'elle a quelqu'un qu'elle considère être son ami, elle remet absolument pas du tout en question, et c'est le cas de Rémi Chêne, elle remet pas du tout en question le fait que ce qu'on va lui dire puisse être faux, parce qu'elle, elle est dans l'instant, elle est dans ce qu'on lui dit au moment où on lui dit. Et à partir de ce moment-là, oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement naïf. Elle a été décrite comme telle, d'ailleurs, dans toute la procédure, et je crois qu'on a pu s'en rendre compte.
Tout à fait. Justement, vous parlez de Rémi Chêne, qui est la personne qui l'a emmené au cimetière à ce moment-là de l'enquête. Quels sont ses rapports avec elle ? Je crois qu'ils ont été amants à une époque, c'est ça ?
Alors oui, ils ont été amants, mais ça n'a pas duré très très longtemps, voilà, parce que ça n'a pas collé entre eux. Et puis en réalité, c'est le coiffeur de ses deux fils à Audrey Louvet, donc il passe régulièrement chez elle. Et puis on comprend que peu de temps avant les faits, en réalité, il se rapproche d'elle de manière un peu plus amicale, on va dire. Où voilà, il se confie à elle, dit-elle, hein, elle se confie à lui beaucoup, évidemment, il écoute beaucoup, et sauf qu'Audrey Louvet, personne n'a jamais vraiment écouté, donc elle voit en lui un véritable ami.
Presque 2 ans vont ainsi s'écouler avant que l'enquête ne connaisse un spectaculaire rebondissement. Les deux premiers suspects vont à nouveau se retrouver dans le viseur des enquêteurs. L'affaire de la grotte sanglante, Patrick Izoard est-il tombé dans un traquenard savamment élaboré? C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, rendez-vous dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire de la grotte sanglante, l'assassinat de Patrick Izoard dans cette cavité du Mont Saint-Clair au-dessus de Sète en juin 2014. Presque 2 ans plus tard, 2 arrestations font rebondir le dossier. Le jeudi 31 mars 2016, le SRPJ interpelle à Alès le coiffeur Rémi Chêne qui participait à une réunion familiale. Audrey Louvet, une mère de 2 enfants vivant dans la précarité, est arrêtée chez elle dans l'appartement qu'elle occupe à Lunel. Cet homme et cette femme ne sont pas des inconnus des policiers. Ils avaient été placés en garde à vue juste après la disparition de Patrick Izoard, puis relâchés. Des enquêteurs qui semblent avoir accumulé toute une série d'éléments à leur encontre. Tout d'abord, un trafic téléphonique intense entre les intéressés. Les relevés des portables d'Audrey indiquent que chaque fois qu'elle a appelé la victime pour le revoir, elle a ensuite contacté Rémi Chêne. Leurs téléphones ont en outre été simultanément débranchés et donc intraçables dans le créneau horaire où Patrick Izoard a disparu. C'est plutôt troublant. L'émission télé dans laquelle le frère de la victime était intervenu a elle aussi apporté son lot de surprises. Une femme affirme avoir recueilli les confidences d'Audrey Louvet. Celle-ci lui aurait raconté avoir téléphoné à Patrick Izoard pour l'attirer près du cimetière et l'entraîner dans la grotte. Il se serait montré réticent pour le convaincre à entrer. Elle lui aurait promis une gâterie. Audrey aurait précisé qu'à l'intérieur, quelqu'un lui aurait dit de dégager. Elle serait sortie sans demander son reste. Selon le scénario qui se dessine, Audrey aurait ainsi servi d'appât à son accompagnateur, Rémi Chêne. Mais pourquoi avoir voulu assassiner Patrick Izoard après l'avoir attiré dans ce traquenard? Pour la juge, il faut aller chercher dans le passé de Rémi Chêne. En 2009, son épouse, Nadège, qui travaillait à l'hôpital, lui avait confié avoir eu une liaison d'un soir avec Patrick Izoard. Très croyante, elle avait amèrement regretté son attitude auprès de son mari et laissé des lettres dans ce sens. 2 jours après avoir avoué son adultère, son mari l'aurait retrouvé pendu dans le garage. Rémi Chêne n'aurait eu dès lors de cesse de s'en prendre à Patrick Izoard. Rémi Chêne et Audrey Louvet sont mis en examen et écroués. Le coiffeur conteste les faits qui lui sont reprochés devant la chambre de l'instruction de Montpellier. Il demande à être libéré. « Je suis innocent, je n'ai rien à voir avec tout ça, je ne sais rien. Je comprends que cette histoire a détruit une famille, mais c'est pas moi », répète-t-il. Les avocats de l'intéressé soulignent que ni Rémi Chêne n'a pas été inquiété pendant 19 mois, pas plus que sa complice. La justice se réveillerait tout d'un coup après avoir désigné un coupable idéal. Yannick Philipponat, journaliste au Midi Libre, et ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Alors c'est un coup de théâtre, on peut le dire. Et qu'est-ce qui a déclenché ces arrestations? C'est le témoignage télé ou bien l'enquête du SRPJ?
C'est les deux. C'est à la fois ce témoignage où quelqu'un vient dire que enfin Audrey Louvet s'est confiée. Donc c'est quand même un témoignage très important. Et ensuite, les policiers ont continué à accumuler des preuves ou en tout cas à continuer leur enquête sur le coiffeur Rémi Chêne. Et vous en avez fait état. Il y a ces contacts téléphoniques, mais aussi tous ces dizaines de messages, de SMS qui sont passés entre les deux accusés et qui ont été effacés.
Ouais, c'est ça. Et donc on voit bien qu'il y a eu une activité intense entre ces deux personnages. Alors j'ai évoqué ce que vous aviez déjà un petit peu dit en début d'émission, mais qui va être au cœur du dossier, puisque c'est le mobile qui pourrait expliquer effectivement cet acte criminel. C'est la fameuse liaison entre Patrick Izoard et Nadège Chêne, qui est l'épouse à l'époque de Rémy Chêne. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Il y a eu une liaison effectivement établie, et puis la découverte ensuite qui s'est terminée tragiquement pour Nadège Chêne, c'est ça?
C'est tout à fait ça. On est début juillet 2009 et Nadège Chêne vient d'être titularisée à l'hôpital, là même où travaille Patrick Izoard. Donc il y a un repas entre collègues, et puis d'après ce qui est un peu transparaissé dans les débats, c'est qu'ils s'étaient rapprochés ces dernières semaines, ces derniers mois, Patrick Izoard et Nadège Chêne, et puis il y a eu cette relation, cet adultère d'un soir après une soirée un peu arrosée à 7, et qui va conduire à une crise de couple assez importante et au suicide de Nadège Chêne. En tout cas, c'est l'enquête de police de l'époque qui conduit qui conclut au suicide. Elle est retrouvée pendue avec une lettre d'explication où elle évoque cette relation extra-conjugale. Voilà, ça a beaucoup fait débat, cette question du suicide, mais je répète, l'enquête de police avait conclu à ça, à ce moment-là, en 2009.
Hein. Oui, c'est ça. C'est que à l'époque, il n'y a pas effectivement d'interrogation là-dessus. On estime que elle s'est pendue dans le garage. L'enquête n'ira pas plus loin. Hein. C'est bien ça, Yannick.
L'enquête n'ira pas plus loin, même si depuis la famille de Nadège Chicard a demandé à son avocat de relancer l'enquête. Il y a une plainte avec constitution de partie civile et il y aurait peut-être une enquête relancée, sachant que le corps a été incinéré, que ça sera très très compliqué à prouver le contraire. En tout cas, il y a ce lien, il y a ce mobile qui apparaît et dans ces mois d'enquête où la PJ a travaillé, ils ont certes trouvé cette téléphonie très étrange entre les accusés, mais aussi collecté différents témoignages de personnes qui attestent que Rémy Chêne, le coiffeur, a menacé Patrick Izoard en disant « un jour je t'aurai ».
Ah oui, c'est ça.
Il y a cette phrase qui revient. Il y a plusieurs personnes, au moins 4 témoins, qui attestent que Rémy Chêne n'avait pas du tout digéré cette tromperie de sa femme et pouvait en vouloir à Patrick Izoard.
Oui, des paroles, des révélations qui ensuite sûrement pèseront très lourd lors du procès qui se tiendra. Maître Eva Fournier, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime et vous êtes l'avocate d'Audrey Louvet. Rémy Chêne, à ce moment-là, dément farouchement, et d'ailleurs il va se tenir à ses dénégations pendant tout le temps de l'enquête et même du procès. Que dit Audrey Louvet? Parce que ces versions, je crois, il va y en avoir plusieurs et elles vont beaucoup varier.
Alors, ces versions, il y en aura plusieurs, effectivement. Après, dire qu'elles vont varier, c'est un peu un raccourci. Mmh. En réalité, au début, Audrey Louvet, elle essaie de tenir bon comme elle peut parce qu'elle est menacée par Rémy Chêne. Donc, elle nie complètement y être pour quelque chose et elle confirme avoir laissé Patrick à ce moment-là. Et puis ensuite, elle comprend que il va falloir qu'elle dise les choses parce que la justice ne peut pas se satisfaire de ceci. Et donc progressivement, à l'occasion de plusieurs interrogatoires devant la juge d'instruction, elle va, on va dire, accoucher finalement de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle peut expliquer. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle va expliquer que effectivement Rémy Chêne lui avait demandé d'amener Patrick Izoard dans cette grotte pour une histoire de dette d'argent qui lui a fait croire à ce moment-là. Elle le dit qu'elle est arrivée dans cette grotte, que Rémy Chêne avait un masque blanc et qu'il lui a dit de partir aussitôt. Donc ça, c'est ce qu'elle explique en tout premier lieu, en août 2016, quand elle est interrogée par la juge d'instruction. Et ensuite, quelques mois après, après des interrogatoires qui duraient extrêmement longtemps, donc c'était difficile pour elle de tout dire d'un coup, elle est venue expliquer finalement qu'il y avait non seulement un masque, mais également une arme, et que Rémy Chêne lui ayant pointé le fusil sur elle, en lui demandant de dégager, elle n'a pas demandé son reste et elle est partie immédiatement. Mmh. Et enfin, le jour de la reconstitution, en 2017, qui a eu lieu le 23 juin, à la date anniversaire de cet assassinat, Là, elle a réussi finalement à accoucher d'une longue gestation pour elle, parce que c'était extrêmement compliqué. Et là, elle est venue expliquer qu'en réalité, elle n'était pas partie et que Rémi Chien les avait braqués tous les deux en lui jetant à elle un rouleau de scotch et en lui demandant, après l'avoir menacée, pour qu'elle rentre avec Patrick Isoard dans une cavité située à l'intérieur de cette grotte, lui avait jeté un rouleau de scotch en lui demandant de le ligoter et qu'une fois que cela a été fait, là, par contre, il lui a demandé de partir, ce qu'elle a fait immédiatement, évidemment.
Rémi Chen, 51 ans, et Audrey Louvet, 29 ans, restent en détention. La cour d'appel de Montpellier estime que les charges retenues n'autorisent pas une libération. Le traquenard mortel a réveillé le passé et fait surgir des doutes sur le suicide de l'épouse de Rémi Chen. L'affaire de la grotte sanglante, une rancune amoureuse tenace. La vengeance serait-elle un plat qui se mange froid? L'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire de la grotte sanglante. 2 ans après l'assassinat de Patrick Isoard, 2 personnes sont mises en examen. Le coiffeur à domicile Rémi Chen, soupçonné d'avoir organisé le traquenard, et sa complice Audrey Louvet. Rémi Chen et Audrey Louvet sont en détention dans 2 prisons différentes de la région. L'affaire de la grotte sanglante laisse apparaître alors en filigrane une vengeance diabolique sur fond de tromperie amoureuse. La victime de la grotte, Patrick Isoard, aurait payé son aventure d'un soir avec l'épouse de Rémi Chen, Nadège, qu'on retrouvera pendue le 5 juillet 2009. Le mari se serait vengé tardivement. Vieille histoire qui réveille brutalement le père de Nadège. René Chicard explique qu'il n'a jamais cru au suicide de sa fille. Il s'est battu à l'époque pendant 2 ans et demi, mais personne ne l'a écouté. « Ma fille n'était pas dépressive », martèle le père de Nadège. Selon lui, Rémi Chen serait derrière un simulacre de suicide. Quant à la lettre de remords écrite par sa fille, elle aurait été rédigée sous la menace. L'enquête sur le suicide est rouverte. Le père de Nadège porte plainte en juin 2017 pour meurtre contre son ex-gendre. Une plainte d'opportunité, un fantasme judiciaire, dit maître Luc Abrakiewicz, avocat de Rémi Chen. Il est plus simple dans un tel désarroi pour un père de penser que sa fille a été tuée plutôt que d'admettre qu'elle a mis fin à ses jours, ajoute maître Franck Berton, deuxième avocat du mise en examen. Le 3 mai 2018, presque 1 an après cette plainte connexe, Rémi Chen et Audrey Louvet sont renvoyés devant la cour d'assises pour l'assassinat de Patrick Isoard. Mais 8 jours plus tard, les enquêteurs apprennent qu'un ADN retrouvé sur la scène de crime match avec celui d'un homme jamais entendu jusque-là. La justice ordonne un supplément d'informations sur cette découverte susceptible de changer totalement la nature du dossier. Et si la thèse de la vengeance amoureuse ne tenait plus ? Des vérifications portent ainsi sur le fameux ADN retrouvé sur un mégot ramassé à côté du corps. Il correspond à celui d'un homme qui est incarcéré alors à Lyon pour des affaires de trafic d'armes, stupéfiants, association de malfaiteurs et qui aurait transité par la drogue, par la grotte. Yannick Philipponat, journaliste au Midi Libre, notre invité ce soir dans l'heure du crime. On l'a un petit peu évoqué dans le chapitre précédent, mais on s'arrête tout de même sur ce rebondissement, le suicide de Nadège, l'épouse de Rémi Chen, affaire dans l'affaire, qui remonte donc à la surface. Pas facile, vous le disiez un petit peu, mais pas facile de trouver quoi que ce soit sur cette affaire.
Pas facile, effectivement, parce que le corps a été retrouvé, il n'y avait pas de traces de bagarre, de défense. Ça paraît comme un geste volontaire, même si le médecin légiste n'a pas exclu l'hypothèse qu'un tiers ait pu intervenir dans la pendaison. Puis on l'a vu un peu à l'audience avec le témoin direct, un policier qui est venu, qui est voisin de Rémi Chen, et c'est lui qui est venu constater le décès, et il décrit un Rémi Chen dans un état un peu second, à la fois effondré, mais aussi en train de rigoler, d'être un peu, il avait un comportement très bizarre. Rétrospectivement, ouais. il a avancé ça. Donc ça a posé beaucoup de questions, mais je vous le rappelle, à l'époque, le commissariat de Sète a classé l'affaire et elle a été, le suicide a été entériné.
Oui, et d'ailleurs, le père de Nadège Chen, lui, va s'obstiner, puisque depuis le début, il pense que effectivement sa fille ne s'est pas suicidée, ce qui est tout à fait légitime lorsqu'on est un père. Et il va dire, par exemple, qu'il n'avait pas été prévenu que sa fille se soit pendue. Il va également raconter qu'effectivement, son gendre a fait appel à un policier pour découvrir le corps, alors qu'il aurait pu essayer de porter des secours, mais il ne l'a pas fait. Tout ça, c'est un peu troublant, tout de même, autour de ce suicide.
C'est troublant, et la famille de Nadège évoque aussi cet épisode des Napoléons d'or. C'est-à-dire qu'il aurait fait un don important de pièces d'or, d'une valeur de plus de 100 000 euros, qui ont disparu. Et les débats, là encore, n'ont pas permis de savoir où étaient passés ces fameux Napoléons d'or qui ont été donnés à Nadège, et qui ont encore ajouté un peu plus de confusion sur sa disparition.
Marc Izoard, vous êtes le frère de Patrick Izoard et vous êtes également l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Vous connaissez Rémy Chen ?
Non, moi je l'ai jamais vu, je le connaissais pas. Non, non. La première fois que je l'ai vu, c'est quand ils les ont arrêtés, que je l'ai vu en photo sur le journal, enfin, je le connaissais pas. Non, non, je le connaissais pas.
Il n'était pas du tout en rapport avec votre famille ?
Non, non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pas du tout.
Vous connaissiez cette histoire de suicide
Oui, j'avais entendu parler. Je savais que mon frère avait été affecté. Un peu, c'est ma mère qui m'en avait parlé. Mais après, bon, j'ai su par la suite que ça avait été un suicide un peu. Ça avait été troublant, quoi. C'était pas. C'est pas net, tout ça, quoi. Toute cette histoire, tout ce qu'il y a eu. Moi, j'ai lu le dossier. L'enquête qui a été faite par la police, ça a été bâclé, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais en tout cas, vous connaissiez cette liaison de votre frère avec Nadège Chen.
Je savais qu'il avait une liaison avec une femme de l'hôpital, mais je ne savais pas que c'était avec Nadège. Je ne connaissais pas Nadège. C'est après coup que j'ai su... Quand tu le sais pas de nuit, quoi.
Est-ce que votre frère vous avait fait part de menaces,
d'attaques ? Non, à moi non, personnellement non. À des amis, oui. Il en a parlé, mais bon, il prenait pas ça au sérieux.
Et il disait quoi à ses amis ?
Alors, il y a une copine à mon frère qui travaille avec lui à l'hôpital. Ça, c'est mon frère qui lui a dit à elle. Il lui a dit que chaque fois qu'il croisait le coiffeur, il disait « toi, un jour, je t'aurai ».
Ah, c'est ça. Après, un jour, je t'aurai. Voilà. C'est ça.
Toi, un jour, je t'aurai, il faisait. Et apparemment, il l'a dit plusieurs fois. Puis, il y a eu un collègue à moi aussi à qui l'a dit. Puis, voilà, mais bon, il ne prenait pas ça au sérieux. À ma mère, il a dit. Puis, il ne prenait pas ça au sérieux, quoi.
Maître Eva Fournier, avocate d'Audrey Louvet, en quelques mots, qu'est-ce qu'elle va donner, cette histoire du nouvel ADN retrouvé sur un mégot ?
Alors, ce nouvel ADN, en réalité, c'est juste une... ça n'a rien à voir, c'est-à-dire la personne que vous avez évoquée, les vérifications ont été faites, hein, puisqu'un supplément d'information a été ordonné par la chambre de l'instruction, et finalement, cet ADN, n'était, après avoir été comparé à celui qui a été retrouvé dans la grotte, il s'est trouvé que c'était pas du tout celui de cette personne que vous évoquez. Ça arrive assez souvent, vous savez, c'est par rapport au fichier FNAEG, où ça matche, mais ensuite, il faut faire des comparaisons très, très précises et très pointues pour qu'on confirme qu'il s'agit bien du même ADN. Et là, en l'occurrence, ça a été confirmé que ça n'était pas du tout l'ADN de cette personne.
Fausse piste donc, l'histoire du mégot n'apporte rien à l'affaire de la grotte sanglante. Elle aura simplement retardé l'échéance d'une comparution aux assises qui va se tenir 6 ans et 7 mois après l'assassinat de Patrick Izoard. L'affaire de la grotte sanglante, 2 accusés pour l'assassinat de Patrick Izoard. Elle accuse, lui dément.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire de la grotte sanglante, en ce tout début de l'année 2021, Rémy Chen et Audrey Louvet comparaissent pour assassinat devant la cour d'assises de l'Hérault. Ce lundi 18 janvier 2021 s'ouvre à Montpellier le procès de la grotte sanglante. Rémi Chêne, 51 ans, est renvoyé pour assassinat. Audrey Louvet, 39 ans, qui comparaît libre, est accusée de complicité. Le témoignage de cette femme qui vit du RSA, qui a traversé une enfance chaotique, a connu une vie amoureuse dans le désordre et qui serait d'une grande naïveté, ce témoignage est capital. Elle explique que Rémi Chêne a été l'un de ses amants pendant quelques années. Il lui disait être sans le sou alors qu'il avait un compte en banque bien garni. Il lui aurait raconté qu'un homme lui devait de l'argent et lui aurait présenté la photocopie de la carte d'identité de Patrick Izoard, un homme avec qui elle avait eu une relation. « Si tu le connais, tu dois m'aider », aurait dit Chêne. Audrey raconte avoir obéi, avoir servi d'appât moyennant un petit billet. Elle va dire avoir agi sous la menace, décrivant le sinistre scénario de la mise à mort. « J'ai mis le sac sur la tête de Patrick, j'ai attaché les chevilles et les poignets. Je n'ai jamais voulu que Monsieur Izoard meure, je m'en veux beaucoup ». Tout au long du procès, Rémi Chêne va lui rester avec fermeté sur sa position. Il est innocent, alors que l'ombre du suicide de son épouse plane avec insistance sur les audiences. Il s'insurge contre cet amalgame. Il accuse sa belle-famille de vouloir salir la mémoire de Nadège. Le docteur Ecvive, un psychiatre qui a examiné l'accusé, le décrit comme un homme qui a le sentiment d'être au centre d'un complot, mais qui n'est nullement un psychopathe. De toute nouvelle lettre d'adieu de l'épouse qui s'est pendue, jamais révélée jusque-là, sont présentées à la barre par la fille de Rémi Chêne. En dépit de ce témoignage et de l'absence d'aveu, Rémi Chêne est condamné à 30 ans de prison, 12 ans pour Audrey Louvet. Yannick Philipponna, journaliste au Midi Libre et ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Quelle est l'ambiance qui règne sur ce procès qu'on attend depuis longtemps ?
Il y a une ambiance assez lourde, les débats ont été très longs, très passionnés, il y avait beaucoup de témoins à entendre, l'affaire a été rendue compliquée par le fait qu'il n'y ait pas d'éléments matériels qui attestent de la culpabilité du coiffeur, donc il a fallu que la cour dissèque un à un tous les épisodes, qu'elle étudie toute la téléphonie, qu'elle entende tous les témoins qui ont été, qui ont pu parler des menaces dont on parlait tout à l'heure, que pour attester en fait que le coiffeur en voulait à Patrick Izoard, hein.
C'est ça.
Ce qu'il a continué à nier. Ce qui était un peu étonnant d'ailleurs de la part de l'accusé, c'est il n'admet même pas en avoir voulu à Patrick Izoard, hein, sans aller à cause de cette relation adultère.
Justement, à quoi est-ce qu'il ressemble, Rémi Chêne ? Comment il se comporte dans ce box ? Il prend la parole ? Il est très actif ou plutôt en retrait ?
Il a été plutôt en retrait, et étonnamment, pour l'avoir vu sur d'autres demandes de remise en liberté où il était beaucoup plus revendicatif, où il hurlait un peu son innocence. Une fois, il était même arrivé avec un t-shirt « Je suis innocent » devant la cour d'appel. Et là, aux assises, il est poli, il répond aux questions, il se défend. Quand il est un peu pris au piège, il dit « Je sais pas ». Il y a beaucoup de questions où il ne sait pas répondre, mais il est resté très calme.
Il est resté très calme.
Très très calme, oui.
En tout cas, il est resté sur ses positions et il est resté.
Il est resté sur ses positions. Il a martelé qu'il n'avait aucune raison d'en vouloir à Patrick Izoard. Il a rappelé qu'il avait refait sa vie. Pourquoi se serait-il vengé 5 ans après alors qu'il avait une nouvelle compagne, qu'il avait l'aide de sa fille, qu'il avait son métier de coiffeur? Vraiment, pour lui, il ne comprenait pas pourquoi on pouvait l'accuser d'une vengeance cuite et recuite 5 ans après, surtout le suicide de sa compagne.
Marc Izoard, vous êtes le frère de Patrick Izoard. Vous le croyez, Rémi Chêne, ou quand il clame son innocence dans ce dossier, quand vous êtes au procès ?
Oui, non. Moi, je savais qu'il serait condamné. Moi, depuis le début, je le dis, j'avais aucun doute. Moi, à aucun moment, je me suis inquiété, hein. À aucun moment, quand moi j'ai su que c'était lui, j'ai eu le dossier, j'ai dit c'est impossible qu'il s'en sorte. C'est impossible qu'il s'en sorte. Comme j'ai dit à la télé, si jamais lui s'en sort, on peut tuer les gens. Hein. Non, il y avait les preuves, hein, les coups de téléphone, comme disait Yannick. Sur son ordinateur, ils ont trouvé des mots-clés comme grotte, fusil, cartouche. Le jour du meurtre, il coiffe le matin une dame que les policiers sont allés voir, l'après-midi ne se rappelait pas. Le téléphone éteint tous les deux, il devait visiter une cave au-dessus, le type de la cave, il attend toujours, Il y a plein de trucs, il a le mobile, il n'a pas d'alibi, il a tout, quoi.
Il y a tout qui est contre lui, c'est ce que vous vouliez
oui,
dire.
D'ailleurs, je vais vous dire, pendant 15 jours de procès, il n'y a pas un jour où il a marqué des points. Pas un jour.
Maître Eva Fournier, vous êtes l'avocate d'Audrey Louvet, vous êtes également ce soir en ligne dans l'heure du crime. J'ai envie de dire que le maillon fort dans cette histoire, c'est celui qui a été jusque-là le plus faible. C'est votre cliente, Audrey Louvet. Pourquoi est-ce qu'elle parle là? Est-ce qu'elle libère finalement sa conscience, j'ai envie de dire?
Alors écoutez, elle libère sa conscience, je pense, parce qu'au départ, c'est pas du tout quelqu'un qui voulait du mal à M. Izoard. Elle avait juste accepté de l'amener pour qu'il soit un petit peu impressionné par Rémi Chen qui serait arrivé avec deux hommes. Et donc, à partir du moment où elle prend conscience, une fois qu'elle est dans cette grotte, que c'est pas du tout ce qui devait se passer, les jours qui ont suivi, elle était encore sous l'emprise de Rémi Chen qui l'a menacée, hein, en lui faisant croire tout et n'importe quoi qui allait arriver, des choses à ses enfants, etc. Donc, elle était liée à lui parce qu'elle était effectivement dans cette grotte. Donc, elle était vraiment réduite au silence par lui, par la relation qu'ils avaient et que les experts ont extrêmement bien décrite, hein, une situation d'emprise qui est quasiment incontestable. Et puis, l'incarcération a fait que, effectivement, elle n'était pas dans la même prison que lui, qu'elle a pris conscience que ce qui s'était passé était extrêmement grave. Je crois qu'elle a été guidée de manière vraiment assez rapide par le souhait, en fait, de dire les choses pour que la famille de Patrick Izoard puisse savoir ce qui s'était passé, parce qu'elle voyait bien que Marc Izoard se débattait dans tous les sens pour faire avancer. Et je pense que sa conscience, ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, l'a titillée. Et puis, elle s'est libérée de cette emprise en étant incarcérée, où finalement, c'est ce qui a été reconnu dans l'ordonnance de mise en accusation, où finalement, elle s'est libérée de ça. Elle a compris que Rémi Chen n'était pas un mafieux qui allait la faire exécuter. Et elle a parlé progressivement.
Vous allez dire, d'ailleurs, maître, je vous coupe une seconde, mais parce que vous avez eu une parole, je crois, à l'audience, de dire on ne la croyait pas jusque-là, personne ne la croyait, et là, enfin, on l'a cru. C'est bien ça?
Mais oui, c'est exactement ça, parce que elle a été acquittée, Audrey, vendredi dernier de l'assassinat. Et depuis le début, elle a toujours dit, elle était traitée de menteuse par la défense de Rémi Chen, qui n'avait pas d'autre choix. À partir du moment où M. Chen il refuse de dire les choses, et c'est son droit, il a le droit de ne pas vouloir ou de ne pas arriver à dire les choses.
Et on arrive au bout de l'émission, maître, c'est pour ça que je suis désolé de précipiter un petit peu votre témoignage. Juste un petit mot avec vous, Marc Izoard, frère de Patrick Izoard, vous êtes, en un mot, vous êtes soulagé par ce verdict?
Oui, gros soulagement. J'attendais ça depuis pratiquement 7 ans, fait 6 ans et demi.
Parfait. Alors,
soulagé, oui.
Merci beaucoup Marc Izoard, Yannick Philippona et Maître Eva Fournier d'avoir été les invités de l'heure du crime ce soir avec l'affaire de la grotte sanglante. 30 ans pour le principal accusé malgré ses dénégations, 12 ans pour sa complice. Nous verrons si un procès en appel aura lieu, c'est pas encore fixé. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.